Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, Driss et moi allons vous présenter la bande dessinée que nous avons choisie, Zenobia, de l'auteur Morten Dürr et du dessinateur Lars Hormann, qui sont tous deux danois. Cette BD est publiée en janvier 2018 par la maison d'édition Marabout et appartient à la collection Marabulle. Elle contient 89 planches au format A5, qui est un format comique. Le graphisme de la BD est assez épuré et les couleurs sont limitées. Les trois couleurs dominantes sont le rose saumon, le bleu et le jaune sable. Le dessinateur a fait le choix d'utiliser des vignettes de différentes tailles avec des plans souvent très larges.
Pour résumer brièvement cette BD, celle-ci nous raconte le périple d'Amina, une petite fille de 10 ans en mer Méditerranée qui a été placée par son oncle sur un bateau de migrants plein à craquer pour fuir la guerre dans son pays natal, la Syrie. Tout au long du récit, nous avons le droit à des flashbacks qui retracent les bons moments passés de la vie d'Amina avec ses parents, le chemin qu'elle a parcouru avec son oncle pour en arriver là, mais aussi la vie de Zénobie.
Pour mieux comprendre ce livre, il faut s'intéresser au contexte géopolitique en Syrie qui contraint Amina à fuir. Tout d'abord, la Syrie est un pays à l'extrémité orientale de la mer Méditerranée et frontalier de la Turquie, de l'Irak, de Liban, de l'Israël et de la Jordanie. Avant la guerre qui a commencé en 2011, la population était plurielle, que ce soit ethnique ou confessionnelle. Le pays est en état d'urgence depuis 1963, ce qui signifie surveillance et censure. Il est dirigé depuis 2000 par Bachar el-Assad, de confession alaouite, qui a succédé à son père. Les alaouites sont surreprésentés dans les instances et possèdent la plupart des richesses, alors que 30% des Syriens vivent en dessous du seuil de pauvreté.
En 2011, le pays connaît une sécheresse importante qui fait s'envoler les prix et entraîne l'explosion sociale. Les printemps arabes gagnent la Syrie. À Deraa, dans une petite ville, de jeunes collégiens taguent un message demandant la chute du régime. Ils vont être arrêtés et torturés. Les manifestations vont se multiplier de façon pacifique et systématiquement lourdement réprimées par les forces du régime qui tirent sur la foule, arrêtent et torturent. Des militaires opposés au régime créent l'armée syrienne libre, ce qui permet aux Kurdes de prendre le contrôle de certains territoires. Bachar al-Assad militarise le pays pour empêcher toute vie normale. Cependant, l'armée syrienne libre a peu de moyens et de cohésion et des groupes djihadistes vont se substituer à elle, notamment l'État islamique en 2013. En 2014, Daesh s'empare de l'est de la Syrie et du nord-est de l'Irak où il va installer un califat qui va commanditer des attentats dans d'autres pays tels que la France et la Belgique notamment.
Le conflit prend une ampleur internationale. Une coalition se met en place pour lutter contre Daesh en s'appuyant sur les Kurdes. Cependant, la Russie, membre officiellement de la coalition, aide en fait Daesh en s'opposant systématiquement son veto contre les projets d'action contre Daesh. La Turquie, elle, même si officiellement dit lutter contre Daesh, cherche en fait à neutraliser la présence kurde qui veulent le proclamer un territoire autonome à ses frontières. Elle ferme les yeux sur ses frontières avec la Syrie et laisse ainsi passer les djihadistes. La Turquie s'allie avec la Russie pour intervenir dans la guerre. En 2019, les troupes américaines se retirent à la demande de Trump, ce qui permet à la Turquie une nouvelle offensive.
Aujourd'hui, cette guerre a fait 500 000 morts, 7 millions de Syriens ont fui le pays, soit un tiers de sa population en 2011. 8 millions de Syriens, soit la moitié de la population actuelle, souffrent d'insuffisance alimentaire, l'économie syrienne est en lambeaux. Toutes ces informations sont tirées d'une vidéo de la chaîne Arte, elle résume très bien le conflit en une dizaine de minutes, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la visionner. Après avoir pris connaissance du contexte dans lequel Amina grandit, nous allons maintenant nous pencher sur la façon dont la BD aborde le thème des frontières à travers les différents personnages du livre.
On part déjà avec le point de vue d'Amina, qui a seulement 10 ans au moment des faits. Elle incarne le courage et la bravoure avec les épreuves très difficiles qu'elle doit affronter à son si jeune âge. Elle réside dans un pays en guerre, la Syrie comme nous l'avons dit tout à l'heure, et a donc un rythme de vie très compliqué. On le voit dans de nombreux flashbacks présents dans le livre, comme par exemple quand un avion de chasse rafle les habitations non loin de chez elle, ou même quand elle attend le retour de ses parents qui ne reviendront pas. Amina est contrainte de fuir le pays avec son oncle, qui vient la chercher alors qu'elle est toute seule dans le village livrée à elle-même. Elle rencontre ensuite un nouvel obstacle, le plus redouté par tous les migrants syriens et d'Afrique du Nord, la mer Méditerranée, qui est en fait la frontière. Elle doit surmonter cette épreuve seule, sur une toute petite embarcation, pas du tout adaptée à la haute mer, va chavirer et fait tomber Aloamina et tous les autres passagers clandestins présents en trop grand nombre. Maintenant, parlons de Zénobie. Ce fut la reine de Palmyre au IIIe siècle. Elle est décrite par le livre comme une guerrière conquérante et flamboyante. En fait, Zénobie incarne dans la BD un espoir, une volonté de s'accrocher pour Amina. Sa mère lui en parlait souvent quand elle était petite, comme d'un modèle.
Les parents d'Amina, eux, semblaient très proches de leur fille. Ils apparaissent dans des souvenirs heureux de la petite fille, comme dans des parties de cache-cache avec sa mère ou au moment de la préparation des repas. Seule la dernière planche à leur côté évoque le souvenir malheureux de leur départ. Ils la quittent en lui promettant de revenir, mais on ne sait pas ce qui leur est arrivé. L'oncle d'Amina, lui, a une grande importance. C'est lui qui vient chercher Amina pendant qu'elle attendait ses parents. Ils vont traverser le pays au milieu du chaos pour atteindre la mer. Il se sacrifie pour elle car il n'a pas assez d'argent pour traverser clandestinement à ses côtés. Il lui laisse sa place et donc une chance de se sauver. Il fait le choix de rester dans son pays en guerre, ce qui est d'un courage admirable.
Donc, si on veut résumer le parcours d'Amina dans Zenobia, celui-ci débute dans sa maison en Syrie, où on ne connaît pas la localisation exacte, et il s'achève dans la mer Méditerranée, où elle tombe à l'eau. On ne sait pas en tant que lecteur si elle va survivre, mais on peut s'imaginer que oui, car il existe d'autres tomes qui suivent cette œuvre.
Pour conclure sur ce livre, nous avons tous les deux un avis très positif de la BD. On a beaucoup apprécié la qualité des dessins, la façon dont est contée l'histoire, cette alternance entre les flashbacks et le calvaire qu'Amina vit en mer. Un des seuls points qu'on pourrait juger négatif est peut-être le manque de texte, mais ça peut aussi d'un côté permettre à de jeunes lecteurs de s'intéresser à la BD et mieux comprendre ce qui se passe dans cette région du monde. Il faut savoir que Morten Dürr est un auteur pour enfants, ce qui explique ce choix évident. Enfin, cette BD n'apporte pas vraiment d'éléments nouveaux au thème des frontières et du phénomène migratoire, si ce n'est la façon dont l'œuvre est racontée. C'est le point de vue d'une enfant de 10 ans, avec l'alternance entre le périple en mer et les flashbacks qui permet au lecteur de mieux s'identifier au personnage et d'être sensibilisé à la cause des migrants. On observe une réelle volonté de la part de Morten Dürr et Lars Horneman de montrer les atrocités vécues par ces migrants dans leur vie et leur périple, entre guillemets, car elle reste tout de même une œuvre contemporaine qui peuvent être destinées à des enfants.